On relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative mayonnaise.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue en effet dans l'émission On relève la sauce, alors émission qui décortique les recettes et les ingrédients de la vie associative en Mayenne. Pour ce mois de juin, émission particulière, puisque en cette journée de la radio, nous sommes en direct et en public, au plein milieu du restaurant, un petit peu sous le puits de lumière, on a un petit peu chaud, mais tout va bien. Donc du restaurant L'Iliade Habitat Jeune, ici à Château-Gontier-sur-Mayenne, que je remercie bien évidemment pour leur accueil. Et quoi de mieux pour parler de recettes associatives que de le faire au sein d'un restaurant tenu par une association. Exceptionnel également, car nous sommes nombreux autour de la table aujourd'hui pour échanger et pour faire un état des lieux, non exhaustif bien sûr, mais que nous tenterons d'être le plus représentatif possible sur la place des associations en Mayenne, leur vitalité, leurs difficultés, tout ça en s'appuyant sur la thématique intrinsèque du bénévolat et des dispositifs, qu'ils soient étatiques, municipaux et autres, qui accompagnent, soutiennent, aiguillent les associations et les bénévoles mayennais. Et donc, avec moi pour cette émission, nous recevons donc Julien Ouvrard. Vous êtes délégué départemental à la vie associative, représentant de l'État et interlocuteur privilégié des associations et des différents dispositifs étatiques, en lien avec, attention, le service départemental de l'engagement de la jeunesse, des sports, de l'engagement, oh là, le service départemental de l'engagement de la jeunesse et des sports. J'ai réussi, bonjour.
De la jeunesse, de l'engagement et des sports, en vrai.
C'était à peu près ça.
Les ingrédients sont là. Bonjour, merci pour l'invitation.
Et aussi avec nous, nous avons donc Yannick Ledroit. Bonjour, vous êtes élu adjoint à la commune déléguée de Château-Gontier-Bazouges, c'est ça?
Tout à fait.
Merci d'être avec nous. Nous avons également Joël Boisgontier, vous êtes vice-président du comité départemental olympique et sportif de la Mayenne. Bonjour.
C'est ça, tout à fait. Bonjour.
Avec nous également Julien Favreau, donc vous êtes directeur de la Ligue de l'enseignement FAL 53. Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Nous avons aussi Arnaud Laviolette, vous êtes responsable du partenariat associatif de la direction de la fabrique du vivre ensemble pour la ville de Laval. C'est bien ça?
C'est exactement ça. Bonjour à tous.
Et Christophe Tropeau, vous êtes donc chroniqueur bénévole à l'autre radio, que vous avez pu suivre justement tout au long de l'année pour les plus fidèles d'entre vous, mais aussi professeur d'histoire et titulaire d'un doctorat dont la thèse « Le plaisir du lien, la sociabilité associative rurale en Mayenne des années 1830 aux années 1930 » et qui a été publiée aux presses universitaires de Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Et pour terminer, une voix féminine, merci beaucoup. Nous avons donc Nora Duval, vous êtes salariée à l'association de promotion de l'économie sociale et solidaire de la Mayenne, la PES 53, et qui aussi d'ailleurs anime une émission tous les mois sur l'autre radio qui s'appelle Les Rendez-vous de la PES. Bonjour.
C'est ça, bonjour à tous et à toutes.
Eh bien justement, Nora, commençons avec vous. Donc je vous propose, en guise d'introduction, peut-être pour se mettre en appétit justement sur ce sujet du jour, de faire un petit état des lieux chiffré sur la vie associative. Un état des lieux national, départemental, c'est ça?
C'est ça, mais ça c'est à moi de le dire, Anthony. Et oui, aujourd'hui, Anthony, je vais vous faire un état des lieux national, départemental, et je vais aborder la question du genre dans les instances associatives, et tout ça en 5 minutes.
Allez, c'est parti, top chrono. Ok, commençons par l'engagement bénévole en France. Quel est-il?
Alors, France Bénévolat nous informait déjà en 2019 qu'une personne sur 4 est bénévole dans une association. Et c'est redevenu le cas aujourd'hui. L'engagement bénévole se rapproche de son niveau d'avant la crise sanitaire. Ils étaient 24% en 2019, ça a descendu à 20% en 2020 et c'est revenu à 23%. Et si le taux d'engagement bénévole associatif est plutôt stable, il progresse chez les jeunes. Les moins de 35 ans s'engagent de plus en plus. Et il diminue chez les plus âgés, notamment les plus de 65 ans.
Et justement, sait-on ce qui freine l'envie de devenir bénévole et puis aussi pour quelles raisons se désengage-t-il?
Bien, les personnes qui ne peuvent pas s'investir dans des actions bénévoles le justifient principalement par un manque de temps. Quasiment une personne sur deux, 46%. Viennent ensuite des raisons plus mineures comme la peur de ne pas savoir faire pour 15%, la peur d'être trop âgé, 14%, de ne pas connaître d'association qui soit en accord avec ses idées aussi pour 12%, et enfin de ne pas connaître les démarches à suivre. Et puis quand on est déjà bénévole, pourquoi est-ce qu'on arrête de l'être ? Bah, parmi ceux qui ne sont plus bénévoles, l'arrêt tient en général à des raisons personnelles, mais tout de même une personne sur quatre explique aussi son retrait par la déception des résultats obtenus et ou par rapport à l'organisation de l'association. Une majorité est quand même prête à se réengager, puisque seulement 15% d'entre eux n'envisagent vraiment plus de donner du temps à une association.
Tout de même. Est-ce que c'est une tendance qui est observée sur le fonctionnement des bénévoles ? Est-ce qu'une tendance particulière est observée, justement ?
Eh bien oui, on peut voir que dans les associations, ça peut intéresser les associations qui nous écoutent, la progression du bénévolat ponctuel se confirme. Alors 29% des bénévoles aujourd'hui en association le sont à une période précise de l'année ou à l'occasion d'un événement, quelques heures ou quelques jours par an, pas forcément tout au long de l'année.
Ok, et en Mayenne, est-ce qu'on a des informations sur ce qui s'y passe ?
Et oui, nous avons quelques données chiffrées qui sont récentes. En 3 ans, de juillet 2019 à juillet 2022, il s'est créé en moyenne dans le département 8 associations par an, 7,9 pour être précis, quand la moyenne nationale est de 9,7. On est donc un petit peu en dessous en Mayenne. Mais malgré tout, nous ne sommes pas en reste, parce que si on doit parler de quel type d'association se crée chez nous, eh bien les créations sont proportionnellement plus nombreuses par rapport au niveau national dans les secteurs du sport, du social et de l'éducation. Et alors, combien de bénévoles en Mayenne ? La dernière enquête de 2022 estime prudemment, parce que c'est un peu compliqué de compter les bénévoles, le nombre de bénévoles serait donc sur le département entre 56 000 et 63 000. Et puis, concernant l'emploi, on recense quand même 8 425 personnes qui sont salariées dans une association sur le département. Quasiment une association sur deux emploie au moins 3 salariés, donc c'est pas négligeable. Et on dénombre aussi 36 associations qui emploient plus de 50 salariés. C'est important aussi de rappeler que l'emploi dans l'économie sociale et solidaire n'est a priori pas délocalisable. On pérennise donc ces emplois-là. Les assos répondent aux attentes et aux besoins du territoire où elles sont implantées. Un zoom aussi sur le secteur social sur la Mayenne, l'aide à domicile, l'aide par le travail et l'accueil des enfants handicapés sont davantage développés en Mayenne par rapport aux repères nationaux.
Ok, et pour terminer, vous vouliez nous parler d'un document de l'INJEP, donc l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, qui vous a interpellé.
Et oui, ça m'a interpellée et j'ai fait des recherches en fait pour faire cette chronique et je suis tombée sur ce document récent, ça date de mars 2023. Et ça a pour titre « Présidence d'association les femmes en minorité ». Je suis un petit peu la preuve aujourd'hui autour de cette petite tablée du texte que j'avance. En tout cas, clairement, les associations ne sont pas dans une bulle. Hein. C'est font partie de la société, hein, comme le reste. Mais à votre avis, quel est le pourcentage de femmes qui occupent le poste de présidente d'association ?
Ouh là là.
Allez-y, ouais. Allez-y,
j'ai le chiffre sous les yeux, donc moi, ça va être compliqué. Mais
Une petite idée ? 40 ?
Pour l'escalade, c'est 100%.
Pour l'escalade, c'est 100%. C'est top. Merci. Eh bien, en fait, on est à 35%. 35% des femmes occupent un poste de présidente et elles sont, en revanche, mieux représentées au poste de secrétaire. 60%. On est plutôt sur la parité sur le trésorier puisqu'on est à 48%. La situation est également très hétérogène selon les domaines d'activité. Dans les associations sportives, seulement 24% des présidences sont occupées par des femmes, contre 48% dans l'hébergement social ou le médico-social. Et puis on a remarqué aussi que plus l'association est ancienne, plus la proportion de femmes aux fonctions dirigeantes est faible. On compte par exemple 39% de présidentes d'associations si l'asso a moins de 10 ans et 31% si elle a plus de 30 ans.
Cela signifie-t-il, du coup, qu'il y a une évolution ? Est-ce que c'est en train de changer ?
Eh bien, je ne vais pas trop m'avancer, mais j'ai envie d'espérer. Je crois qu'il faut espérer. Et en tous les cas, aujourd'hui, l'intérêt des associations n'est plus à démontrer. Et ce sont aussi elles qui réinventent nos sociétés. Alors, il est toujours temps de progresser sur ces sujets-là. Je vous donne un dernier chiffre pour la route. 8 Français sur 10 ont une image positive des associations. Voilà, merci de votre écoute.
Merci beaucoup Nora pour tous ces chiffres. Toujours
juste
pas facile.
Les sources, pardon Anthony.
Voilà, exactement.
Peut-être
ce que j'avais posé
les sources, ouais.
La question d'où viennent un petit peu de ces chiffres.
Pour travailler cette chronique, je suis allée sur Association Mode d'Emploi, qui est un site internet, mais qui est aussi un magazine où on a beaucoup de références. Les enquêtes de France Bénévolat qui confie en fait à l'IFOP. Et puis le document dont tu as cité, analyse et synthèse de l'INGEP. Merci.
Très bien. Eh bien, encore une fois, merci. Et merci pour cette présence féminine. Voilà. Ce que je vous propose, peut-être pour compléter aussi cet état des lieux et échanger, voilà, pour savoir si ces chiffres correspondent, si vous en êtes d'accord ou quel est aussi votre regard par rapport à ça et à l'état des lieux en Mayenne, de commencer par écouter l'interview de Yannick Favennec, député de la 3e circonscription mayennaise, qui s'excuse car il n'a pas pu se libérer aujourd'hui, mais avec qui j'ai pu échanger hier après-midi, avec dans un premier temps un regard vis-à-vis de la vie associative dans sa circonscription.
Bonjour. D'abord, moi j'ai la chance et l'honneur d'être le député d'un territoire où il y a un formidable réseau associatif. Je dis souvent que s'il n'y avait pas les bénévoles, il ne se passerait rien dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers. S'il n'y avait pas les bénévoles, il n'y aurait pas de lien social dans notre territoire. S'il n'y avait pas les bénévoles, il n'y aurait pas d'attractivité du territoire. Parce que combien de manifestations, et de manifestations qui dépassent largement les frontières de la Mayenne. Je pense par exemple, là, dans 15 jours, 3 semaines, on va avoir le festival du Foin de la Rue. Un festival de musiques actuelles. Il y a 800 bénévoles intergénérationnels dans un village, Saint-Denis-de-Gâtine, qui attire 30 000 spectateurs en 2 jours. Je vous cite le Foin de la Rue, je pourrais citer le motocross dernier qui va avoir lieu au mois d'octobre, avec là 1200 bénévoles qui vont accueillir 60 000 spectateurs en 2 jours à Ernée. Et je pourrais en citer bien d'autres, et pas que dans la 3e circonscription. Je crois que c'est vraiment dans l'ADN de la Mayenne, parce que les Mayennais sont des gens généreux, engagés, dévoués. Alors effectivement, on a eu un arrêt un peu brutal avec la Covid. Je dois dire que j'étais assez inquiet sur le redémarrage. Parce que finalement, les bénévoles sont comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où peut-être ils se sont posés des questions en disant finalement, ça fait du bien de se poser, ça fait du bien de profiter de sa famille, ça fait du bien d'avoir des jours pour soi et des moments pour soi. Et je me rends compte là, depuis une petite année, non, ça redémarre. C'est un peu comme un diesel, hein, faut que ça chauffe pour retrouver la vitesse de croisière. Mais je vois bien que, en tous les cas, je parle dans ma circonscription, je vois bien que de village en village, de mois en mois, ça repart. Les animations sont de nouveau présentes, parce qu'une fois encore, sans eux, c'est pas les collectivités, hein. C'est pas l'État qui pourrait faire ce que font les associations, ce que font les bénévoles sur le territoire. S'il n'y avait pas ces gens-là, une fois encore, il n'y aurait rien, il ne se passerait rien. Parce qu'aucune commune, aucun département, aucune région, et encore moins l'État, aurait les moyens financiers de s'engager et d'organiser des manifestations comme celles qui reposent sur le bénévolat associatif. Et quand le trésorier, à un moment, met le projecteur sur l'équivalent temps plein des heures de bénévolat, je peux vous dire que ce sont beaucoup d'emplois qu'on n'aurait pas les moyens de financer et qui sont occupés par les bénévoles.
Beaucoup de sujets là, qui viennent d'être abordés et de lancer. On a le constat d'une relance après le Covid, d'un grand dynamisme, le fait aussi d'une réalité budgétaire par rapport au bénévolat. Peut-être pour pouvoir compléter cet état des lieux, Julien Ouvrard, est-ce que ce sont à peu près les mêmes données, les mêmes constats que fait la préfecture ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez compléter ?
Non, les constats sont globalement identiques. Moi, je me retrouve bien dans la description que fait Monsieur Favennec sur le dynamisme de la vie associative dans le département et dans le Nord-Mayenne, notamment. Pour avoir fait plusieurs départements, je trouve que la Mayenne et la vie associative en Mayenne se rapproche globalement de celle en Bretagne, avec beaucoup de petites associations en milieu rural très actives. Et je rejoins aussi totalement le fait que ce qui nous intéresse au niveau de l'État, c'est de soutenir ces initiatives d'habitants, de citoyens, à la fois parce qu'en effet, elles permettent d'animer, de mettre en vie la vie locale, mais aussi parce que ce sont des espaces où les gens apprennent à vivre ensemble, à créer ensemble, à mettre en place et à agir concrètement sur leur environnement. Et ça fait partie du fonctionnement démocratique au-delà des élections, etc. Le fait de vivre concrètement cette possibilité d'être acteur de son lieu de vie, c'est quelque chose qui est essentiel dans le fonctionnement démocratique.
Le fait de pouvoir faire partie d'une cité avec un fonctionnement démocratique, etc. D'expérimenter,
et puis de faire ensemble, et puis de s'appuyer aussi sur une dynamique de groupe, une dynamique collective qui permet de faire beaucoup plus de choses et d'aller beaucoup plus loin. À l'exemple de Foin de la Rue ou de beaucoup d'autres associations, ce sont des projets qui ont cette ampleur-là parce qu'il y a une volonté commune et il y a un phénomène de groupe et d'engagement collectif qui permet de dépasser beaucoup, beaucoup de choses. Sur les questions de dynamique aussi post-Covid,
ouais.
je rejoins aussi le diagnostic qui a été fait. On le retrouve sur le nombre de créations d'associations sur le c'est département. Fait, ouais. En Mayenne, on est autour de 250 à 300 créations par an enregistrées, en tout cas.
D'accord.
au répertoire national des assos. De mémoire, juste avant le Covid, on était à 283 assos, là on est à 270 associations,
donc on
retrouve ce rebond avec des différences qui s'expliquent aussi suivant les trois arrondissements, vu qu'on est sur 53 créations sur l'arrondissement de Château-Gontier, 112 sur celui de Laval et puis 105 sur celui de Mayenne.
Donc un équilibre.
Un équilibre qu'on retrouve aussi sur la dimension emploi pour M. Favennec, insister sur le poids économique de l'engagement bénévole, ce qui est tout à fait vrai. Il faut aussi insister sur le poids, les associations sont aussi des acteurs économiques, notamment en termes d'emploi, qui sont importants, qui ont souffert pendant la crise Covid. En Mayenne, le secteur associatif, c'est 10% de l'emploi privé du département. Donc, Nora le disait, c'est à peu près 8500 salariés. On observe un rebond suite au Covid. Les associations ont souffert quand même. Il y a une baisse de l'emploi salarié associatif, peut-être un peu moins importante que dans d'autres départements. Mais par contre, quand on compare le rebond avec l'ensemble du secteur privé, on se rend compte que ce rebond, il est encore... il est là, mais il est moins important que dans les autres secteurs privés.
C'est-à-dire qu'en fait, on a l'association, enfin le monde associatif n'est pas encore retrouvé exactement le même essor qu'avant.
En termes de
salariat.
En termes de salariat, on est revenu. Quasiment, voire on a dépassé un petit peu en termes de nombre de salariés.
D'accord.
Par contre, quand on compare au rebond de l'ensemble du secteur privé, on se rend compte que le milieu associatif a peut-être moins recruté que comparé à l'ensemble des autres secteurs.
D'accord.
Donc, ce qui amène aussi un petit point de vigilance par rapport à ça. Et peut-être dernière remarque, pour reprendre l'exemple au Foin de la Rue, c'est vrai que c'est important de souligner le rôle dans l'animation de la vie locale, dans l'attractivité du territoire par l'organisation d'événementiels. Ce qui nous intéresse et ce qu'on essaie de s'attacher à soutenir, c'est pas simplement cette approche uniquement de temps fort, voire de vitrine d'une action, mais sur cet exemple associatif, c'est une action tout au long de l'année qui vraiment fait le sens du festival. Et le festival est juste finalement un temps fort, une manifestation d'un travail tout au long de l'année sur justement cette dynamique de participation, d'engagement bénévole. Et je pense que c'est important aussi d'avoir cette approche de pas être uniquement sur l'événementiel, mais bien sur le fond et la réalité de ce travail au quotidien des associations.
Que l'action des associations, c'est tous les jours, c'est pas seulement juste les événementiels de temps en temps que l'on peut voir. Ok, très, très bien. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter Julien Favreau, vous, donc directeur de la Ligue de l'enseignement FAL 53 pour Fédération des associations laïques de la Mayenne. Est-ce que ce constat est partagé sur l'état de la vie associative en termes de rebond, en termes de création, de dynamique? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous ressentez ou pas du tout?
On est sur des collectifs d'associations, beaucoup aussi avec les juniors associations, les réseaux des acteurs jeunesse, une action aux différences, ce genre d'associations. Donc après, le constat est partagé qu'il y a eu une baisse aussi avec 2020-2021. Je pense qu'il y a beaucoup de bénévoles qui ont profité, en fait, et c'est ce qui est mis un peu dans toutes les études qui le montrent, que bah, voilà, ils sont partis. Des personnes qui souhaitaient partir, ça a été une occasion en fait pour arrêter des fonctions de dirigeants associatifs. Après, ça remonte effectivement. On le voit, nous, sur le dispositif Lire et Faire Lire, par exemple, où on est revenu aux chiffres de bénévoles, c'est-à-dire 180 bénévoles sur le département, donc avant la crise Covid. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir. Après, effectivement, ce qui est important, et ça, on n'en parle jamais assez, c'est que le milieu associatif aussi, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Bon, on a la PESC qui est là, donc ça, je pense qu'il faut le redire, parce que c'est pas souvent dans les esprits, en fait, que ça représente effectivement à peu près 15% de l'économie, et que dans l'économie sociale et solidaire, c'est 80% d'associations, quoi. Donc par exemple, pour la Ligue d'enseignement, nous, c'est 28 salariés, donc ça fait partie on fait partie de l'économie, et que c'est quelque chose qui est important, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a cette partie, en effet, avec énormément de bénévolat, enfin de temps bénévole, mais qui contribue aussi à l'économie, à la vie d'un département, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis après, je pense que c'est des métiers aussi en construction. Il y a les postes de salariés, de cadres, de dirigeants, qui sont des métiers aussi qui se sont construits au fur et à mesure. Et c'est des choses qui sont importantes. Donc il y a effectivement la formation pour les bénévoles, mais la formation également des salariés qui est importante et qu'on doit collectivement mettre en place.
Très bien, merci beaucoup Julien. On va essayer de zoomer un petit peu, on va en profiter puisqu'on a des invités qui représentent un petit peu deux secteurs, on va dire, alors plutôt urbain, c'est vrai. Donc du coup, avec vous Yannick Ledroit, donc sur la commune de Château-Gontier, alors Château-Gontier-Bazouges et peut-être Château-Gontier sur Mayenne dans son ensemble, justement, est-ce que vous aussi vous avez ressenti un déclin et un rebond des activités associatives, ou quel est votre regard justement sur le secteur?
Je crois que comme partout, il y a eu deux années qui ont été difficiles. Maintenant, ça a repris. Rien que sur Château-Gontier, il y a à peu près 200 associations. D'accord. Même si on prend sur le pays de Château-Gontier, ça fait 300 à peu près. D'accord. Donc c'est assez énorme. Et non, maintenant, je pense qu'il y a un rebond, même au niveau de la création d'associations. D'ailleurs, en ce moment, il y a deux associations qui vont se créer au niveau de la Malardière. Je pense que vous connaissez bien, au niveau de la radio. Non, c'est très dynamique. Et puis, de toute façon, c'est un besoin. Hein. Si les associations ne fonctionnent pas ou mal, c'est la vie de la ville et la communauté de communes qui en ressentent. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais non, je pense que ça redémarre et c'est une très, très bonne chose. Et là, on parlait des événements ponctuels. Donc nous, sur Château-Gontier, on a le Vienne Bifest, bien sûr, très très bientôt, et qui draine une partie bénévole assez importante. Hein. Je ne sais pas, je pourrais pas vous dire le nombre, mais c'est entre 1000 et 2000 bénévoles dont l'association a besoin. Donc c'est énorme. Et les gens sont partants, au contraire. Honnêtement, on n'a pas trop de soucis, j'irais, du côté des bénévoles, de trouver des bénévoles sur Château-Gontier. C'est les échos qu'on a.
Tout à fait, ouais. Est-ce que les échos, parce que souvent, ce qui est remonté aussi là, sur la thématique de la recherche du bénévolat, ce qu'évoquait Nora, c'est que de plus en plus des bénévoles sur les aspects ponctuels, et de moins en moins sur les aspects peut-être, je dirais, à long terme d'engagement, de responsabilité associative. Est-ce que c'est un constat aussi partagé par les associations locales?
Peut-être. Justement, on avait fait les assises du bénévolat l'année dernière, si je me souviens bien. Et donc, il y a eu des ateliers pour débattre un petit peu de la pénurie de bénévoles qu'on pouvait trouver sur le secteur. Et c'est vrai que ça demande du temps. Mais il faut peut-être aussi intégrer les bénévoles, je dirais, de façon un peu plus dans la vie des associations. Il y a peut-être ça aussi, quoi. Les nouveaux qui arrivent dans les associations ont peut-être du mal à s'intégrer, ou on a peut-être du mal à les intégrer aussi. Hein. Il y a peut-être cette chose-là, quoi. Donc, mais non, je pense que la vie associative, notamment sur Château-Gontier, ça fonctionne bien.
Ok.
En souhaitant que ça va continuer.
Très bien. Bah, on pourra revenir un petit peu justement sur qu'est-ce qui fait que voilà, les mutations bénévoles et comment, en tout cas, surtout sur la partie responsabilité ou en tout cas bénévole dirigeant, comment est-ce qu'on peut donner envie de participer. Arnaud, la Violette, bah, je dirais juste, et sur Laval, ça va ?
Sur Laval, ça va plutôt bien. okay. Alors moi, je suis arrivé à mon poste il y a 18 mois, donc au moment où le rebond était en cours ou quasiment après, les temps durs, les années dures 2020-2021. Mais grosso modo, on est toujours autour de 500 à 550 associations uniquement lavalloises.
D'accord.
Autant, vous parliez en termes de Comcom, moi, je parle uniquement lavalloise et on est autour de 500. Avec effectivement l'effet de la ville-centre, la ville-préfecture qui capte beaucoup d'associations qui ont un rayonnement départemental, mais qui ont leur siège à Laval.
D'accord.
Donc oui, 500 associations, ça me semble être globalement le chiffre des années passées. Pour rebondir sur le bénévolat, l'an passé, il y avait le forum des associations donc, qui a lieu tous les deux ans à Laval et qu'on avait renommé cette année, enfin l'an passé, forum des associations et du bénévolat, justement pour essayer de venir en soutien à toutes ces associations qui, on pressentait, avaient des problèmes de bénévolat. Et il y en aura peut-être toujours. Mais très souvent, on nous a dit que le bénévolat ponctuel, comme il a été évoqué, ça fonctionne à peu près bien. Le bénévolat de dirigeant, là, c'est plus compliqué. Mmh. Et c'est probablement même un point de vigilance à avoir pour les années à venir. Mais peut-être que le GDOS aura un avis sur la question du sport. Mais voilà, Je rejoins aussi ce que disait monsieur le député, c'est que ce bénévolat sur des événements qui amènent du monde, qui créent un lien, qui créent de l'attraction au moment, on n'a jamais senti beaucoup de difficultés. Mais ce bénévolat et de dirigeants et ce bénévolat au fil de l'eau, ce qui au final permet à l'association de vivre les 11 autres mois et demi qui ne sont pas liés à cet événement, là il peut y avoir quelques difficultés. Ouais.
Ok, donc là, on en ressort vraiment ce constat-là. Avant, justement, de s'intéresser vraiment au domaine du sport, parce que je vois qu'il y a une envie de réaction juste à côté de moi, on va peut-être déjà commencer par un petit point de vue histoire sur cette, je dirais, l'importance, ou en tout cas la création, l'essor, l'émergence des clubs sportifs au début du XXe siècle, puisque en avril... Avec vous, Christophe, nous avions évoqué les débuts du cyclisme associatif en particulier. Aujourd'hui, donc, pour cette dernière chronique de la saison, nous allons aborder l'essor du sport associatif en général. On rappelle que le cyclisme associatif, après un franc succès dans les campagnes mayennaises au tournant des 19e et 20e siècles, avait rapidement décliné avant la Première Guerre mondiale pour ne réapparaître vraiment que dans les années 1930. Alors, ça, c'était la chronique du mois dernier, d'avril même. Qu'en est-il des autres sports?
Alors, d'abord, il y a toute une question que j'ai éludée la dernière fois, c'est qu'est-ce qu'un sport? La question se pose car on sait qu'en Mayenne, au moins au XVIIIe siècle, il y a à côté des jeux de société, les jeux de cartes, les jeux de dés, les jeux de dames par exemple, des jeux sportifs. Et le plus fameux est sans doute la soule, qui se joue de la Bretagne au nord de la France actuelle à l'occasion des fêtes de village. Alors la soule se joue avec une balle ou une espèce d'objet en cuir bourré de paille que l'on doit porter à un endroit déterminé, individuellement ou par équipe. La chose n'est pas claire. Et cette balle-là, on se la dispute à coups de poing et parfois à coups de bâton. Mais ce jeu violent est progressivement interdit par les autorités laïques et religieuses. Et au XIXe siècle, il ne reste que quelques traces limitées de pratiques de la soule en Mayenne.
Donc, plus de jeux sportifs dans le département à l'époque contemporaine.
En tout cas, plus de jeux sportifs violents. Mais les cercles que nous avons évoqués au début de la saison, cercles qui se développent dans les années 1830-1860, pratiquent le billard, mais surtout la boule de fort. La boule de fort s'impose comme le jeu sportif local, même si au début, il est réservé à un petit groupe de notables.
Mais les sports collectifs que l'on connaît aujourd'hui, comme justement le football, le basketball, ou alors la natation et l'équitation, ça arrive quand ?
En fait, tout cela arrive relativement tardivement, car en vérité, jusqu'à la fin des années 1920, le jeu sportif, que j'hésite pour cette raison à appeler sport, a pour finalité la guerre. En effet, après la défaite française face aux Allemands en 1871, le gouvernement républicain décide d'investir massivement dans la formation des jeunes hommes pour en faire de bons soldats aptes à prendre une revanche quand celle-ci se présentera. Et donc, dans les années 1870-1880, l'État encourage la pratique de la gymnastique et du tir au fusil dans les écoles et met en place un service militaire généralisé pour tous les garçons. Mais entre la fin de la scolarité vers 13 ans et le service militaire vers 20 ans, il ne faut surtout pas que les jeunes perdent en formation, d'où la création de sociétés de préparation militaire où les jeunes garçons, on dirait aujourd'hui les adolescents, vont pouvoir continuer à parfaire leur musculation et leur maîtrise du tir. Et alors en Mayenne, le mouvement tarde un petit peu à décoller et l'essor des sociétés de préparation militaire va être porté en particulier par les patronages catholiques autour de 1910. Alors rien à voir avec un pressentiment de guerre mondiale, cela a à voir surtout avec la volonté de l'Église catholique de proposer aux jeunes gens des activités qu'ils recherchent et ainsi de garder un contrôle moral sur eux.
Je voudrais pas paraître insistant, mais le football dans tout ça. Enfin, la création du stade Lavallois, c'est quand même 1904.
Oui, mais c'est en ville. Et en fait, à partir du début du XXe siècle, les pratiques urbaines vont de plus en plus différer des pratiques rurales. Le football est un sport importé d'Angleterre qui va s'implanter d'abord dans les ports, puis dans les centres urbains. Cette géographie, elle s'explique par la nécessité de se déplacer facilement et rapidement en train, à l'époque, d'un club à l'autre pour des rencontres qui se structurent très rapidement en petits championnats. C'est ainsi que le stade Lavallois intègre, dès sa création, un championnat breton où il rencontre des clubs de Rennes, Vannes ou Saint-Malo. Mais pour les campagnes, c'est plus compliqué à organiser. Quand le football est proposé, c'est une activité sportive complémentaire après la gym et après le tir. Alors, des équipes existent avant la Première Guerre mondiale, dans les patronages de Mellet ou de Biernay, par exemple. On a d'ailleurs des photos d'une de leurs rencontres amicales en avril 1913. Mais le premier conflit mondial remet le tir et la gym au cœur des pratiques sportives jusqu'à la fin des années 1920.
On peut donc vraiment parler de sport loisir dans les campagnes mayonnaises qu'à partir des années 1930, c'est ça ?
Exactement. Avant, la pratique sportive est totalement liée à une finalité militaire. Cela explique, on l'avait vu, en partie l'échec de la pratique cycliste dans les années 1900 du fait d'une pratique individuelle sans finalité militaire véritable. À partir des années 1930, le sport loisir apparaît pleinement. On a de vrais clubs de football ruraux qui s'affrontent dans des championnats qui se structurent à l'échelle locale. On a des clubs de ping-pong, le premier est créé à Ernée en 1933. Des clubs d'équitation, souvent portés par des châtelains. Des clubs de natation, des clubs de cyclisme. La pratique du basket apparaît également dans les patronages. En clair, le paysage sportif que l'on connaît aujourd'hui se met en place à la veille de la Deuxième Guerre mondiale.
Est-ce qu'on a une idée justement des équipements dont bénéficient ces premiers sportifs ruraux ?
Ben en 1936, au moment du Front populaire, gouvernement qui encourage la pratique sportive, une grande enquête est lancée dans chaque commune pour faire l'inventaire des équipements sportifs. Et c'est là qu'on voit apparaître les premiers terrains spécifiques de football. Avant, on joue dans un pré. Les premières salles de sport, les premiers bassins de natation aménagés dans le lit d'une rivière, les premiers vestiaires également. Et les campagnes mayennaises se sportivisent à grands pas et le sport n'est plus réservé à la ville. Et donc, 100 ans après l'émergence des premiers cercles, les années 1930 sont une sorte d'aboutissement d'un premier élan associatif de loisirs dans les campagnes mayennaises. Et donc en 100 ans, des années 1830 aux années 1930, les associations sont devenues incontournables. Et encore aujourd'hui, les corps de sapeurs-pompiers, la fanfare et le club de football font partie de l'identité des villages ruraux.
Merci beaucoup Christophe pour cet éclairage et puis aussi pour l'ensemble des chroniques de cette année, voilà, qui ont couvert les années 1830 jusqu'à 1930 et on en arrive à la conclusion, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une réaction, un regard ou en tout cas déjà peut-être vis-à-vis de cette histoire et puis aussi vis-à-vis des constats pour le niveau du sport qui est quand même un secteur assez important et représenté en Mayenne. Monsieur Boisgontier, dites-nous tout.
Bah écoutez, je crois que les propos qui ont été entendus jusqu'à présent confirment. Alors, en tout cas, moi, je confirme que le sport représente aujourd'hui encore des enjeux importants au niveau associatif. 100 000 licenciés, un petit peu moins peut-être que 100 000 licenciés. 1100 clubs, ça commence à faire un peu de monde. Au niveau national, 18 millions de licenciés, 3 millions de bénévoles, à peu près. Alors, je me suis amusé pour reprendre la partie chiffrée. Si on chiffre à peu près la valeur de ce bénévolat, alors je vous passe les détails du calcul, on arrive à dire que la masse du travail bénévole représenterait à peu près 5 fois le budget du ministère des Sports. Bon, donc on parle de choses qui sont quand même assez importantes. Alors je rejoins tout à fait les constats, le constat qui a été fait, que globalement l'associatif sportif se porte très bien. En revanche, au niveau des tendances, je confirme également que les tendances lourdes, c'est pour trouver des bénévoles de proximité au quotidien, ça reste plutôt facile. Pour trouver du bénévolat engagé, du bénévolat de responsabilité, ça commence à être beaucoup plus compliqué. On a un petit peu de démission, un petit peu de dirigeants qui baissent les bras. Alors, si on est tous d'accord sur le constat, le problème est de savoir pourquoi. Quelles sont les raisons de cela? Alors moi, je propose deux types d'explications. Alors il y a les explications, on va dire, sociétales. On a une société en mutation, plus de consumérisme, un petit peu moins d'engagement, plus d'offres de loisirs, donc les gens ont autre chose à faire. Et puis aussi plus d'exigences. Parce que le public en général est plus exigeant vis-à-vis des associations. Quand vous confiez vos gamins à un club sportif, vous exigez aujourd'hui que les moniteurs qui encadrent soient formés, soient compétents. Bon. Donc ça, c'est le changement sociétaux. Il y a aussi des raisons structurelles qui font que les dirigeants d'assaut ont aujourd'hui plus de responsabilités. Ça commence à devenir un peu plus compliqué de prendre des initiatives. Tout ça amène vers une professionnalisation alors des salariés, moniteurs, cadres, et une professionnalisation des bénévoles. La professionnalisation, elle est intéressante au point de vue effectivement de la consommation, on va dire, de
la
sport.
La montée en compétences.
Mais à l'inverse, les moniteurs, dès lors qu'ils sont formés, les cadres, dès lors qu'ils sont formés, il faut les rémunérer. Les cadres associatifs, ils doivent aujourd'hui aussi se former et consacrer plus d'heures qu'ils ne le faisaient par le passé à des tâches qu'on va qualifier d'administratifs au sens large. D'où, effectivement, une certaine lassitude et une certaine difficulté à recruter. Alors, quelle solution, puisqu'on a fait un constat, évoquer la problématique, maintenant quelle solution? Alors on parle de reconnaissance. On parle de reconnaissance. Alors,
de valorisation.
Ouais, de valorisation. Notre député propose, je crois, de valoriser. Alors soit en obtenant des avantages fiscaux, soit en obtenant des avantages au niveau de la retraite.
Ce que je vous propose justement, peut-être avant de passer justement sur ces côtés solutions et dispositifs et choses qui peuvent exister vis-à-vis de ce constat, je dirais plus ou moins partagé, voilà, sur cet engagement bénévole, une petite respiration musicale pour nos auditeurs et on se retrouve juste après.
Gosto muito dela. Tum, tum, tum. Bala, bala.
Vous êtes toujours avec la petite phrase de fin et vous êtes toujours sur l'autre radio dans l'émission On relève la sauce où nous sommes en direct et en public du restaurant de l'Iliade Habitat Jeune ici à Château-Gontier. Alors on a déjà abordé quelques sujets, on a surtout posé un constat. Maintenant ce que j'aimerais c'est qu'on revienne éventuellement sur des dispositifs connus ou moins connus ou en tout cas des solutions qui pourraient être proposées, des initiatives autour de ce constat et pour peut-être un peu lancer... Voilà, je vous propose un deuxième extrait de l'interview de Yannick Favennec avec qui nous sommes revenus sur la proposition de loi qui avait été déposée en octobre 2022 sur le bénévolat et qui visait à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite.
D'abord, ce n'est pas la première fois que je dépose une proposition de loi de cette nature. Je l'ai fait également au cours des législatures précédentes. Mmh. C'est simplement d'abord... le constat que le bénévolat n'est pas un puits sans fond et que on trouve effectivement des gens engagés, mais on a des difficultés à trouver des gens qui s'engagent dans des responsabilités. Par exemple, pour être président, secrétaire ou trésorier d'une association, ça devient de plus en plus difficile. Et moi, je trouvais que avec cet engagement, il fallait peut-être que la société envoie un signal envers les bénévoles et reconnaissent autrement que par des médailles ou que par des félicitations, reconnaissent cet engagement. Et par exemple, l'idée, c'était de dire que ceux qui ont été présidents, secrétaires ou trésoriers d'une association pendant 10 ans, par exemple, pourraient bénéficier de trimestres de retraite supplémentaires. Alors, pour ne rien vous cacher, dans le cadre du projet de loi sur les retraites, malheureusement, nous n'avons pas eu de débat à l'Assemblée nationale, ça ne vous aura pas échappé. Mais si nous avions eu un vrai débat à l'Assemblée, j'avais proposé un amendement qui reprenait le dispositif de ma proposition de loi pour profiter donc de cette fenêtre de tir qu'était le projet de loi sur les retraites pour essayer d'amener dans le débat le problème ou la problématique, entre guillemets, des bénévoles et essayer de faire passer par amendement ce que je n'avais pas pu faire passer par une proposition de loi dans le cadre du projet de réforme des retraites. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat, donc il n'y a pas eu d'amendement en l'occurrence. Mais moi, c'est un combat que je veux continuer de mener parce que j'ai la conviction que notre société doit être beaucoup plus reconnaissante à l'égard des bénévoles. Mais on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, disait ma grand-mère. Et je crois vraiment qu'il y a un moment où il faut qu'on soit concret, beaucoup plus concret dans la reconnaissance du bénévolat que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, l'attribution de médailles. C'est très bien, c'est honorifique, c'est sympathique. Mais si on veut pérenniser cette ressource humaine incroyable, ce maillage territorial formidable de notre territoire en matière de vie associative et de bénévolat, il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui soit plus concret et qui motive, je vous le dis, qui motive ou qui remotive l'engagement associatif.
Actuellement, est-ce que vous avez connaissance ou est-ce qu'il y a d'autres propositions ou d'autres projets de valorisation qui sont en cours de discussion ?
Non, malheureusement, je trouve que là-dessus, on est trop timide. Alors, moi, je ne désespère pas, hein, parce que si je ne peux pas rentrer par la porte, j'essaierai de rentrer par la fenêtre hein, sur ce sujet-là. Je continuerai à me battre pour qu'on reconnaisse mieux l'engagement bénévole. Il y a des mesures qui sont prises pour valoriser les acquis de l'expérience et pouvoir le mettre sur un CV quand on a participé à la vie d'une association, qu'on a occupé des responsabilités dans une association. Il y a des mesures qui sont prises pour faire en sorte qu'il y ait moins de responsabilités pénales, parce que c'est toujours pareil, hein, une association, un président qui organise une manifestation, si ça se passe mal, bah c'est sur lui ou sur elle que ça retombe, et quelquefois la responsabilité, elle est très engagée, et je crois que là-dessus, il y a aussi, ça peut aussi freiner la prise de responsabilité dans une association. Mais voilà, pour moi, ça ne va pas assez loin, et je crois vraiment qu'on a un combat à mener. Ça, c'est un véritable enjeu pour notre société et pour les années qui viennent.
Alors, pas de valorisation pour la retraite, ok. On est trop timide, un réel enjeu de société, un partage aussi du constat qu'on a fait sur les prises de responsabilité. Mais malgré tout, il y existe peut-être... Il y a peut-être des dispositifs qui existent, peut-être des solutions vis-à-vis de ça. J'ai envie de me tourner directement vers vous, Julien Auvoir, peut-être pour un tour un petit peu des dispositifs existants.
Alors, je ne sais pas si je vais vraiment vous faire un tour des dispositifs existants. Je peux vous faire un retour. Je pense que la question de la valorisation du bénévolat, elle est très complexe. Mmh. Elle est très complexe parce que le bénévole, il ne s'engage pas forcément pour être valorisé. Il s'engage pour des questions de convivialité, de rencontre, d'utilité, de défense d'une cause. Et alors, je m'occupe en partie aussi de tout ce qui est valorisation type médaille, etc. Et on se rend compte que, au final, ça intéresse quand même un cercle assez réduit de bénévoles. Mmh. Et notamment, les jeunes ne sont pas du tout en recherche de ce type de valorisation. On a par le passé, essayé de mettre en place des choses, notamment, qui permettait à partir d'un certain volume d'engagement bénévole en temps de créer des droits autour de la formation, notamment la formation professionnelle. Ça a semblé intéresser un petit peu. Après, je pense qu'au niveau de l'État, le dispositif n'a pas forcément été suivi. En tout cas, il a pris de plein fouet la crise Covid. On n'en a plus forcément réentendu parler ensuite. Donc il y a en fait, je pense que la valorisation du bénévolat, ou des bénévoles plutôt, là, mm-hmm. plus des bénévoles, des personnes, elle est pas simple et elle n'est pas forcément... en tout cas, les bénévoles peuvent avoir des positions très, très différenciées sur ces points-là.
Du coup, c'est pas forcément le bon axe à mettre en avant?
Je pense que c'est un axe global à avoir en tête, mais par contre, il faut le réfléchir de plusieurs façons. Ce que je peux retenir des propos de monsieur le député, le fait que, par exemple, on a des freins sur la prise de responsabilité, sur la complexité aussi de l'action associative et du contexte, alors ça peut être réglementaire, législatif.
Sur les choses
qui sont présentes et qu'on peut pas, enfin, qui sont indéniables, qui vont aussi, je pense, avec. Avec un contexte aussi où les associations font de plus en plus de choses, sont de plus en plus pointues sur leur domaine, et donc ça va aussi de pair avec un développement du fait associatif. Peut-être sur ce point-là, le ressenti que j'ai eu après le Covid et même pendant le Covid, c'est qu'on a eu beaucoup de responsables associatifs qui nous ont appelés, alors qui étaient en difficulté de gouvernance et qui du fait de cette crise sanitaire, ont réfléchi à leurs modalités de gouvernance, notamment pour sortir un petit peu du fonctionnement classique président, trésorier, secrétaire, et plutôt pour réfléchir sur des gouvernances beaucoup plus collectives, collégiales, ce qui permet à la fois de prendre cette responsabilité ou ces responsabilités de façon plus collective et moins individualisée, et puis de réfléchir aussi à la question de la participation de façon plus large. C'est vrai que d'un côté, on va avoir parfois des associations qui vont nous dire ouais, c'est difficile de trouver de nouveaux responsables, etc. Mais d'un autre côté, dans leur fonctionnement, on a des... Alors, il y a des statistiques, Nora en parlait, hein, 2 présidents sur 3 qui sont des hommes ou 75% dans le sport, mais aussi en termes d'ancienneté, je crois que plus d'un tiers des personnes qui portent cette fonction de président la portent depuis plus de 10 ans. Et ça amène aussi la question de comment on fait passer et comment je pense que l'engagement bénévole, il se fait au début plutôt par rapport à une volonté de se rendre utile, etc. Et le passage à une prise de responsabilité, il ne se fait pas naturellement. Mmh. Il doit s'accompagner par l'ensemble de l'association.
Sur cette idée de transmission,
De faire la place aussi, parce que accueillir de nouveaux bénévoles, c'est aussi leur faire une place et accepter que le fonctionnement qu'on a à un moment puisse évoluer. Et ça, ce n'est pas toujours évident dans certaines associations.
On n'est pas irremplaçable.
Et c'est en ce sens aussi que... pour reprendre les propos de monsieur Favennec, la notion de pérennisation du bénévolat, elle est particulière. Parce que moi, je pense que l'engagement bénévole, il est évolutif au fil des ans, au fil des personnes. On doit plutôt accompagner ces mutations plutôt que d'essayer de les peut-être de les instituer. Par contre, je retiens aussi beaucoup, et ça, c'est un axe qu'on essaie vraiment de développer, notamment avec dans le sein de, enfin, au sein de l'éducation nationale, c'est comment valoriser chez les jeunes, notamment, des formes d'engagement associatif. Dans des parcours de formation. Et ça, c'est clairement. Alors, il y a des textes, il y a des choses qui sont prévues, mais qui se font encore assez peu dans la réalité, de façon à ce qu'on puisse aussi valoriser, alors, l'engagement bénévole, ça peut être aussi l'engagement service civique, etc., beaucoup plus dans ces parcours de formation, dans la valorisation des compétences aussi qui peuvent être adossés à cette expérience.
Nora, surtout sur un esprit de gouvernance, c'est ça, sur un esprit de gouvernance, sur un esprit de transmission et d'éducation.
Vous vouliez réagir. Je voulais réagir en effet parce que je rejoins Julien sur par rapport au, si je reviens à la chronique que j'ai faite au démarrage de l'émission sur le fait que une personne sur quatre se désengage par la déception des résultats ou par rapport à l'organisation de l'association. Donc en fait, je pense qu'en effet, il y a peut-être quelque chose à déconstruire sur le côté président, secrétaire, trésorier, etc. Et comment on organise notre association. Et je sais qu'au sein de l'APES, on propose aussi justement la gouvernance partagée, de parler de comment... Enfin, en fait, ça se construit, il faut se former. On peut peut-être aussi revoir l'organisation de l'association pour faire de la pédagogie aussi, pour donner envie... en fait, aux personnes de s'impliquer et leur permettre, comme le disait mon collègue, de finalement cette transmission en fait qui soit facile, parce que généralement on le voit chez les bénévoles, il y a une espèce de charge lourde qui est là et que on a du mal à transmettre, alors qu'il faudrait effectivement peut-être plus étaler. Et peut-être on voit aujourd'hui des associations où il peut y avoir 6 coprésidents, ils ont chacun leur parti, etc. Donc il y a des choses qui peuvent se passer, on le voit notamment, je donne l'exemple de Synergie en Mayenne, mais il y en a plein d'autres, et il y a des innovations sur ce plan là qui permettent peut-être un engagement bénévole plus facile. Voilà.
Réfléchir la gouvernance pour qu'elle soit plus partagée, moins de responsabilités, pour plus facilement accéder à cette prise.
Oui, c'est ça. En tout cas, peut-être prendre chacun sa partie pour, en effet...
D'accord. Une réaction ?
Oui, juste pour commenter. De façon assez amusante, c'est exactement ce qu'a décidé France Bénévolat en Mayenne l'an passé. C'est-à-dire qu'il y avait un président et maintenant ils ont une coprésidence à 3. Donc ça corrobore exactement ce que venait de dire Nora à l'instant.
Il y a Julien, Julien Favreau, vous voulez réagir ?
Non, je voulais rajouter, on avait eu un sociologue qui était venu, alors j'ai perdu son nom, à Château-Gontier, qui parlait d'engagement post-it et timbre, et je trouve que c'est assez éclairant. Puisqu'avant, on avait plutôt un engagement timbre, on était engagé pendant 30 ans, voilà, avec effectivement des présidents qui peuvent rester 15 ans des fois sur des mêmes fonctions. Puis maintenant, un engagement post-it où du coup, on va venir s'engager des fois 2-3 ans. Ça peut être dans le cadre d'une junior association, après d'un service civique. Et je pense que ça nous amène aussi à réfléchir à des nouveaux modèles de gouvernance. Et les gouvernances partagées, par exemple, ça peut être des bonnes solutions à ça. Alors après... c'est vrai qu'il y a ces ça peut être contradictoire des fois avec des grosses associations ou des associations qui sont employeurs ou effectivement sur des fonctions de dirigeants associatifs. Quand on a des salariés, quand on a des budgets qui sont importants, comment on fait avec des personnes qui vont tourner tous les 3 ans? Et donc ça pose quand même ces questions-là, quoi. Donc là, il y a à trouver, réinventer des choses peut-être, effectivement.
Ok.
Oui, deux choses. La première sur le renouvellement et sur l'inclusion des jeunes. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors, je remarque que c'est un sujet qui est plus prégnant dans le monde sportif que dans les autres associations. On a ce problème dans le monde sportif de renouvellement avec des dirigeants qui sont un peu plus âgés. Une fois qu'on a fait le constat et qu'on a compris un certain nombre de raisons, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a des choses qui, moi, me paraissent intéressantes pour ramener les jeunes dans le fonctionnement associatif, y compris d'ailleurs, on en discutait avec Julien Favreau ce midi, sur la possibilité pour les assos désormais de faire fonctionner des apprentis, c'est-à-dire faire venir les jeunes à l'intérieur des assos en tant que salariés ou futurs salariés, les faire rester aussi dans les territoires, ce qui est un vrai problème en Mayenne. Donc ça, c'est un sujet. Deuxième sujet, sur la reconnaissance. Alors, il y a des choses compliquées.
y a des choses compliquées. Le trimestre de retraite, c'est compliqué à mettre en œuvre. Avoir un avantage fiscal, c'est possible, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Il y a quand même des choses.
Pour ceux qui, justement, il faut déjà être imposable. Voilà.
Il y a quand même des choses qui sont d'une simplicité absolue. Alors, juste pour mettre un peu de vinaigre dans la sauce. Quand on voit la manière dont les places peuvent être attribuées pour les grandes compétitions, au public en général, si on réserve un certain nombre de places aux bénévoles, aux licenciés sportifs, etc., ça fait plaisir, c'est une vraie reconnaissance. Et pour un certain nombre de dirigeants associatifs, ça serait largement suffisant. Ça ne coûte pas un rond. Pardon.
Ok, donc sur en fait, voilà, une forme de rétribution, mais pas forcément ni budgétaire, ni ainsi de suite, mais...
Une reconnaissance,
une reconnaissance. Ok, très bien. Vous vouliez réagir, monsieur Ledroit.
Oui, tout à fait, par rapport à l'intégration des jeunes bénévoles, notamment au niveau sportif. Mmh. Enfin, nous, au niveau de la ville de Château-Gontier et la communauté de communes, ça fait partie des critères des subventions qui sont allouées. S'il y a des jeunes qui sont mis en formation par les clubs, donc nous, on va réévaluer la subvention attribuée à ces clubs.
Sur de formation pour rentrer dans
voilà,
les
pour
dans
rentrer,
instances
parce que maintenant, on sait très bien que dans certains sports, que ce soit le football, enfin le hand et tout, il faut qu'on ait des éducateurs qui soient plus ou moins spécialisés. Même chose au niveau de l'inclusion des jeunes, des jeunes handicapés qui vont participer à la vie du club. Là, c'est pareil, on va augmenter aussi les subventions. Et notamment aussi, dernière chose, par rapport aux féminines. Oui. Parce qu'on s'aperçoit, et tant mieux d'ailleurs, il y a de plus en plus de féminines, notamment au niveau du football, à Château-Gontier, à l'ancienne, au niveau du hand également. Mm-hmm. Donc il y a une croissance. Et là, c'est pareil, c'est un critère qui va permettre d'augmenter les subventions allouées aux associations.
Donc là, l'exemple d'une municipalité qui octroie plus de financement en fonction de ces critères-là, je vois qu'il y a une envie de réaction.
Oui, pour compléter, il y a des dispositifs qui existent et qui ne sont pas suffisamment utilisés. Alors, je pense au DLA. Moi, je suis un fervent défenseur du DLA, qui était un dispositif d'accompagnement qui permet de financer une intervention extérieure dans une asso pour régler des problématiques de ressources humaines ou des problématiques de fond sur le sens de l'association, etc. etc. C'est un dispositif qui n'est pas suffisamment connu. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Julien Ouvrard, mais je crois que les fonds ne sont même pas utilisés en totalité. On a, je crois aussi, alors nous, au niveau asso, qui aidons les autres assos à faire un boulot d'amélioration des connaissances de ceux qui existent. Parce qu'il y a des dispositifs qui ne sont pas suffisamment utilisés.
Une réaction, justement, monsieur Ouvrard.
Ben, je rejoins ça le vécu que je peux avoir. J'étais responsable associatif avant de rejoindre l'État. Je pense que le principal frein ou la principale difficulté d'un bénévole, c'est d'être seul en fait face à ces difficultés. Et le fait, alors on peut valoriser, et c'est important de valoriser, de montrer, de prendre ce petit pas de côté aussi pour dire voilà, ça fait tant d'années et sur ces années-là, bah, vous êtes engagé régulièrement, etc. Mais dans le quotidien, en fait, ce qui est important, c'est le fait de savoir vers qui se tourner pour avoir des réponses et le fait de ne pas être seul face à ses responsabilités et sans trouver de réponse. Et je pense que la mission qu'on peut porter, qu'on porte tous en fait autour de cette émission, c'est aussi d'être des appuis à ces bénévoles par rapport à leurs interrogations, par rapport à des besoins qu'ils peuvent exprimer. En tout cas, dans le ressenti que j'en ai, moi, sur les échanges que j'ai quotidiennement avec des responsables associatifs, cette dimension-là, d'être disponible, d'être à l'écoute, et puis d'essayer de... On n'a pas forcément toutes les réponses et toutes les solutions dans l'immédiat, mais en tout cas, d'apporter son regard et puis d'apporter des éléments de réponse et un accompagnement à ces associations, à ces responsables associatifs, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est une des des actions qu'on essaie vraiment de développer dans le département pour, alors je sais pas si on peut parler de pérennisation, mais en tout cas pour faire que ces bénévoles là aient des habitudes de s'ouvrir par rapport à des difficultés et de savoir où trouver des éléments de réponse. Et puis de pouvoir aussi alimenter des réflexions. Souvent, on vient avec, ces bénévoles vont venir avec une question, une problématique, et puis on se rend compte que dans l'échange, c'est plutôt la manifestation d'un autre problème. Et en fait, ce travail d'accompagnement, alors qu'il est porté par le DLA plutôt pour les associations employeuses dans le département, c'est quelque chose qui est important et qui, je sens souvent des bénévoles qui sont isolés en fait par rapport à ces questions.
D'où justement la création aussi du dispositif Guide Asso qui va se mettre en place.
Oui, c'est un dispositif, donc c'est un réseau de structures de collectivités, d'État, d'associations aussi qui sont expertes sur ces questions-là. Et l'idée, c'est de faire que ce réseau soit présent à l'échelle du département sur tous les territoires et que tout bénévole qui le souhaite puisse avoir déjà une structure de proximité pour se rapprocher, être informé et puis pouvoir être accompagné en fonction de ses besoins gratuitement.
Je vois le temps qui défile super vite, il nous reste très peu de temps. Je vous propose une dernière prise de parole, une réaction, puis un dernier mot peut-être, Julien Favreau.
Non, moi je voulais juste réagir par rapport à la valorisation. Je pense qu'il faut quand même redire que la meilleure des valorisations, que ce soit pour les salariés ou les bénévoles, c'est les aides, parce que ça permet de faire vivre les projets associatifs. Et l'APES avait organisé une journée là, sur l'économie sociale et solidaire avec Jean Gattel et Jean-Louis Laville. Et eux deux redisaient aussi qu'au niveau de l'État, par exemple, il y a quand même plus d'aides qui sont données aux entreprises qu'aux associations. Donc ça permet aussi de casser les idées reçues, comme quoi les associations, c'est un peu des bouffeuses de subventions. Mais les entreprises bouffent plus de subventions que les associations. Donc ça permet de remettre aussi tout le monde à sa place. Et que l'économie sociale et solidaire et les embauches qui sont derrière... C'est aussi dans les associations et dans l'économie sociale et solidaire. En fait, quand il y a de l'argent qui est investi, ça va directement dans les emplois. Donc ça, c'est aussi important de le redire.
Arnaud, la violette.
Si c'est pour un petit mot de conclusion, moi j'ai deux points d'alerte que je sens venir quand même assez rapidement. Alors le premier, c'est je marche un peu sur les plates-bandes de Joël, mais c'est sur le après Paris 2024. Dans les dirigeants associatifs, il n'est pas impossible qu'il y ait un turnover qui est assez important. Et c'est dommage que M. le député Favennec ne soit pas là, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse échanger sur les potentielles difficultés qui vont naître des 2 ans de retraite supplémentaires pour les dirigeants associatifs qui vont peut-être avoir du mal à se dire à 64 ou 65 ans de se réengager pour une durée assez longue. Et en plus, dans les échanges qu'on a aujourd'hui, on constate que quand une personne s'engage pour être président d'une association, il ne le fait pas pour 1 an ou 2 ans et ça dure souvent longtemps.
Est-ce que Arnaud Lavette a marché sur vos plates-bandes du coup?
Non, c'est tout à fait. Enfin, on en parle assez souvent entre nous. 2024, c'est magnifique, donc les Jeux Olympiques. Mais le mouvement sportif fonctionne sur des élections par Olympiade. Et donc, au terme de cette Olympiade, des élections vont être réorganisées un peu dans toutes les fédés. Donc les équipes dirigeantes vont être potentiellement renouvelables en tout cas. Est-ce le moment de faire rentrer du sang nouveau, du sang neuf, sans doute. Est-ce qu'on va trouver ce sang neuf ? Ça, c'est une autre paire de manches. Bon, en tout cas, je pense que ce type d'émission, elle mérite de nous permettre d'anticiper un petit peu la réflexion sur le sujet. La réflexion, elle est bien avancée. Je constate quand même que sur le plan des solutions, il y a pas mal de choses qui restent à construire. Mais on est optimiste quand même.
Merci bien. Nora, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur peut-être l'accompagnement de l'APES ou qu'est-ce que...
Oui, si on parle d'accompagnement, en effet, on propose à l'APES tous les mois des matinées gratuites pour les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire, donc coopératives, entreprises de l'ESS, etc. Et du coup, les matinées, notamment, on a fait une matinée sur la gouvernance partagée. On fait aussi des matinées sur la stratégie commerciale. Voilà, on va faire une matinée sur la responsabilité des dirigeants. Donc ça, ce sera au mois d'octobre. Mmh. On essaie vraiment de répondre aux attentes des associations. Si on parle d'accompagnement, on essaie vraiment d'être au plus près des besoins et des attentes des assos. Voilà.
Monsieur Ledroit, est-ce que vous voulez une dernière intervention ?
Non, simplement dire qu'au niveau, au niveau sportif, c'est vrai que nous, sur Château-Gontier, on a une, des associations sportives qui sont très, très développées, parce qu'on a à peu près 6 000 licenciés, donc sur un peu plus de 17 000 habitants, donc c'est quand même pas mal, quoi. Moi, non, par contre, je suis assez confiant, effectivement. Et c'est vrai que, comme il a été dit, on peut regretter qu'au niveau des JO 2024, les bénévoles n'ont peut-être pas été assez sollicités pour qu'ils puissent participer et voir les épreuves. Voilà.
Sur la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter un dernier mot ? Très bien, eh bien, merci à vous. On le savait, une heure, c'est court pour aborder ce sujet. On a donc fait un constat et quelques solutions peut-être. Mais en tout cas, ça veut dire que toutes les autres solutions sont à construire. Donc merci à vous, en tout cas, pour votre participation. On remercie aussi, bien évidemment, l'habitat jeune, l'Iliade, pour son accueil. Tous les contacts des différentes structures qui étaient représentées aujourd'hui seront sur le site de l'autre radio, où vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, mais aussi sur la page Vie associative en Mayenne. Voilà, je vous rappelle que si vous voulez nous contacter ou partager aussi des informations, si vous êtes une association, vous avez envie de partager une information, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@l'autre-radio ou à laisser un message à l'antenne pour les auditeurs au 09 70 40 59 40 où Joël, le technicien d'aujourd'hui, se fera un plaisir d'écouter et de pouvoir programmer. En tout cas, ne quittez pas l'autre radio puisque aujourd'hui à 19h, il y aura les filles de Jean-Paul Sartre, émission en direct aujourd'hui. À 21h, il y aura l'émission All Blues. Et pour ceux qui veulent voir aussi une émission en direct pour la Journée mondiale de la radio, rendez-vous à Kilubu pour assister à l'enregistrement de l'émission Sorcière. On vous remercie et on vous souhaite une très belle journée à l'écoute de l'autre radio.